Vous écoutez, on lit pour vous.
Vitamine D, l'allié sous-estimé contre les infections hivernales. Un texte d'Oriane Polge, paru le 5 janvier 2026 dans Science et Vie. De nombreuses personnes présentent un taux de vitamine D inférieur au seuil optimal sans le savoir. Les dernières recherches montre que ce déficit discret peut avoir des conséquences concrètes sur la résistance immunitaire, en particulier l'hiver. Une vitamine au rôle longtemps sous-évalué. Si l'on connaît bien la vitamine D pour son effet sur la solidité des os, son implication dans les défenses immunitaires a longtemps été négligée. Cette vision partielle s'explique autant par des priorités historiques en santé publique que par la complexité de ces interactions biologiques. Aujourd'hui encore, le dosage de cette vitamine reste absent de nombreux bilans sanguins standards. Diane Stadler, experte en nutrition à l'Oregon Health and Science University, explique que les médecins ne prescrivent plus toujours ce dosage. La carence est désormais supposée fréquente chez beaucoup de patients. Pourtant, ce manque invisible concerne un élément clé du bon fonctionnement du corps. En parallèle, nos modes de vie se sont radicalement transformés. La réduction de l'exposition solaire, en raison du travail en intérieur ou de la sédentarité, limite la production cutanée de vitamine D. Autrefois assurée par la vie en extérieur, cette synthèse naturelle s'est effondrée en quelques générations, rompant un équilibre évolutif vieux de milliers d'années. Ce que la science révèle du lien entre vitamine D et système immunitaire. La vitamine D ne se contente pas de fixer le calcium dans les os. Elle joue aussi un rôle clé dans la régulation du système immunitaire en modulant à la fois l'immunité innée et adaptative. Le docteur Michael Olick, professeur à l'Université de Boston, insiste sur sa capacité à optimiser la réponse immunitaire face aux virus et bactéries. Un article de BuzzFeed rapporte les travaux de Olick sur la vitamine D. Les personnes carencées présentent un risque plus élevé de contracter la COVID-19. Ce risque grimpe de 54% avec des formes souvent plus sévères. Le manque de vitamine D ne provoque pas la maladie, mais affaiblit les défenses naturelles, surtout en hiver. Ce lien se retrouve aussi dans la réponse au vaccin. Selon Stadler, un bon taux de vitamine D améliore l'efficacité des vaccins saisonniers, comme ceux contre la grippe ou le pneumocoque. La Cleveland Clinic rappelle, pour sa part, que ce micronutriment agit comme un catalyseur de l'immunité permettant une meilleure production d'anticorps après vaccination. Ces données changent profondément la perception que l'on peut avoir d'un nutriment autrefois jugé secondaire. Prévenir, plutôt que guérir, les leviers accessibles à tous. Corriger une carence en vitamine D ne demande ni médicaments complexes, ni régime restrictif. L'alimentation peut aider en partie avec les poissons gras, les œufs ou les produits laitiers enrichis. Mais ces sources ne suffisent pas toujours à atteindre un bon niveau. L'exposition au soleil reste une autre solution, mais elle dépend de nombreux facteurs. La latitude, la saison, la couleur de peau et le temps passé dehors influencent beaucoup son efficacité réelle. Elle reste donc difficile à généraliser. Dans ce contexte, la supplémentation orale s'impose comme une stratégie fiable. Le Dr Olick recommande entre 2000 et 5000 unités internationales, UI, de vitamine D3 par jour pour atteindre un taux sanguin compris entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre. Ces niveaux, bien au-delà des standards minimums, permettraient à l'organisme de mieux affronter les agressions hivernales. Stadler évoque même une fourchette idéale supérieure à 50 nanogrammes par millilitre pour garantir une immunité efficace. Ces doses sont sûres pour la majorité des adultes, à condition d'être encadrées médicalement, notamment chez les personnes souffrant de pathologies rénales ou digestives. Certaines populations doivent redoubler de vigilance. Les personnes âgées, celles à la peau foncée ou vivant dans des régions peu ensoleillées, sont plus à risque de carence. Pourtant, une supplémentation bien dosée peut corriger facilement ce manque. Dans un monde plus sédentaire et exposé aux infections respiratoires, garder un bon taux de vitamine D devient essentiel. Ce n'est plus un simple conseil d'hiver, mais un vrai enjeu de santé. C'était « Vitamine D, l'allié sous-estimé contre les infections hivernales », un texte d'Oriane Polge, paru le 5 janvier 2026 dans « Science et vie ».
La jungle du café. La production mondiale du café laisse un goût amer. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir. Au réveil, entre deux réunions ou après le repas, le café rythme nos journées. Avec 2,5 milliards de tasses consommées chaque jour, il figure parmi les boissons les plus populaires au monde. Mais sait-on vraiment qui le cultive, comment et à quel prix? Dans la jungle du café, le journaliste français Pierre-Wolfe Mandrou enquête sur l'industrie de cet or noir qui enrichit les multinationales et laisse sur le carreau les petits producteurs. Les petits producteurs ne gagnent rien. Ils ne vivent pas du café ou très peu, alors qu'ils représentent 80 % de la production mondiale. Ce n'est pas normal quand on sait que le café rapporte de plus en plus d'argent, souligne-t-il au Devoir. Grand amoureux du café, le journaliste, qui écrit dans le magazine Le Pèlerin, a voulu comprendre les rouages de cette filière mondialisée. Pendant un an, il a sillonné une quinzaine de pays producteurs, de l'Éthiopie au Nicaragua, en passant évidemment par le Brésil et le Vietnam, qui assurent à eux seuls près de la moitié des exportations mondiales. Sur le terrain, il a rencontré cueilleurs, caféiculteurs, agronomes, coopératives et dirigeants de grands groupes. À partir de leurs témoignages et de ses propres constats, il lève le voile sur un paradoxe monstrueux. Le commerce du café se porte à merveille. Sa consommation mondiale augmente de 1 à 2 % par année depuis des décennies, et les consommateurs prêts à payer cher pour boire du bon café sont plus nombreux que jamais. Pourtant, ceux qui récoltent ces grains vivent dans une précarité grandissante. La loi de la jungle. À la source de leur malheur, du moins en partie, la libéralisation du marché du café en 1989. À partir de cette date, les quotas de production par pays fixés pendant 27 ans par un accord international n'ont plus cours. Place à la jungle. Que le plus productif gagne, écrit l'auteur dans son livre. Un système qui, résume-t-il, rend les plus forts encore plus forts et les plus faibles encore plus faibles. La richesse qui émane du secteur est aujourd'hui accaparée par les grandes multinationales comme le géant américain Starbucks ou le Suisse Nestlé. En imposant des prix d'achat très bas, elles fragilisent les petits producteurs et favorisent des pratiques sociales et environnementales délétères. Pour produire toujours plus et vite, certains ont recours à l'exploitation humaine. Les multinationales savent, mais ferment les yeux, affirme le journaliste. Dans son livre, il documente l'existence persistante du travail forcé dans plusieurs plantations où les cueilleurs n'ont aucun matériel de protection, vivent dans des conditions de vie lamentables et touchent un salaire de misère. C'est de l'esclavage moderne. Les caféiculteurs peinent, eux, à rentabiliser leurs fermes puisque le prix de leur café n'a guère augmenté en 30 ans, alors que l'inflation a explosé. Pour survivre, beaucoup cumulent les emplois. D'autres abandonnent leurs terres et s'aventurent sur les routes migratoires dans l'espoir d'un avenir meilleur. À cela s'ajoute la destruction des sols. Le Vietnam, par exemple, passé en 10 ans du 28e au 2e rang mondial, a intensifié l'usage d'engrais et de pesticides dans ses plantations au point de rendre certaines terres impropres à de nouvelles cultures. Les changements climatiques aggravent aussi la situation en favorisant des températures extrêmes et des maladies qui ravagent les plantations. Ces dernières années, le Brésil et le Vietnam ont connu des épisodes de sécheresse sans précédent qui ont mis en péril leur récolte. Les plants de café sont fragiles et capricieux, particulièrement vulnérables à la chaleur, d'où l'augmentation du prix de votre café depuis 1 an et demi. Si rien ne change, la moitié des terres où pousse le café deviendront impropres à sa culture d'ici 2050, prévient Pierre-Wolf Mandrou. Vers la fin du café, entre l'abandon des plantations et la production de plus en plus incertaine, le café pourrait-il disparaître de nos déjeuners? Tant que des hommes rêveront de fortune, ils planteront du café, répond l'auteur, convaincu que certains pays pauvres prendront toujours le relais dans l'espoir de s'enrichir. Il a aussi rencontré des producteurs qui, malgré la misère, refusent de quitter des terres familiales transmises depuis des générations. Autre source d'espoir pour l'avenir, la science. Il y a eu une prise de conscience dans la dernière décennie du risque réel de disparition du café. Résultat, l'argent coule à flot dans la recherche, qui teste la résistance de variétés peu connues et en développe de nouvelles. Pour sortir les caféiculteurs de la pauvreté, toutefois, la clé est l'éducation. On peut les aider à transformer le café, à former des coopératives, à se convertir à l'agroforesterie, à diversifier les cultures. L'auteur juge aussi pressant qu'un prix minimum d'achat soit imposé et estime que les multinationales devraient être responsables devant la justice si leur café exploite des hommes. Il rêve en grand et imagine même des primes d'incitation pour le café produit en agroforesterie, des malus pour le café issu de l'agriculture intensive, la fin de la spéculation financière ou la taxation des fabricants de capsules non dégradables. Quand on fait de l'enquête, on rêve de changer le monde, mais c'est rarement le cas, confie-t-il lucide. Il espère toutefois que son livre contribuera à sensibiliser les consommateurs aux injustices qui gangrènent la filière et aux dangers qui menacent l'avenir du café, afin de les inciter à mieux choisir ce qu'ils mettent dans leur tasse. C'était « La jungle du café, la production mondiale du café laisse un goût amer ». Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 19 janvier 2026 dans Le Devoir.
La
L'intelligence artificielle vue par les professeurs de l'USB. Un texte de Marie Vilgoki, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté. La Liberté a rencontré trois enseignants-chercheurs de l'Université de Saint-Boniface pour comprendre les défis auxquels doit faire face le monde universitaire dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. Pierre Minkalantadi, l'IA est un artefact qui peut faciliter la réflexion. Pour Pierre Minkalantadi, enseignant en littérature et en langue française à l'Université de Saint-Boniface, l'IA est un artefact qui peut faciliter la réflexion, mais précise qu'elle doit être admise comme une aide et non un moyen en soi. La problématique de l'innovation technologique a toujours été la même. Quand une nouvelle technologie se met en route, beaucoup adoptent une posture prophétique qui invite à croire que celle-ci va résoudre tous les problèmes du monde, souligne l'enseignant-chercheur, qui rappelle que la technologie s'insère dans des processus et des pratiques sociales déjà en cours. Selon lui, le défi principal de l'utilisation de l'IA dans le cadre universitaire réside dans le principe d'honnêteté intellectuelle et du plagiat. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut surtout poser les bonnes questions en termes de détournement de cette technologie, affirme-t-il. Ce n'est pas la technique qui définit les valeurs, mais l'humain, souligne l'enseignant qui précise que si la pratique répond au niveau éthique, il n'y a rien de mal à l'utiliser. Ainsi, pour Pierre Minkalantadi, il faut adapter et mettre à jour les politiques universitaires existantes pour l'encadrer. Aujourd'hui, l'enseignant envisage d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de ses cours. Cette technologie peut servir à préciser au mieux la définition des objectifs du cours, par exemple. René Desjardins. Cette technologie modifie la hiérarchie, les professeurs deviennent apprenants. Il faut réfléchir aux effets de cette technologie et à ses enjeux éthiques, affirme René Desjardins, professeur agrégé à l'école de traduction de l'Université Saint-Boniface. Pour elle, l'utilisation de l'IA doit être judicieuse et transparente. Pour l'enseignante, le principal défi pour le corps professoral au niveau universitaire réside dans le fait qu'il n'existe pas de consigne générale quant à l'utilisation de l'IA. En effet, les politiques varient d'un établissement à l'autre et il existe aussi une variabilité d'un cours à l'autre. Cette géométrie variable est très difficile pour la communauté étudiante qui se perd et doit sans cesse s'adapter aux différentes consignes. René Desjardins observe une technologie qui avance à un rythme fulgurant. Ainsi, les professeurs se retrouvent à être des apprenants. En ce sens, l'IA modifie la hiérarchie dans la salle de classe, invite à l'humilité et engage à créer un apprentissage collaboratif avec les élèves. Je ne suis ni une techno-optimiste, ni une techno-déterministe, mais j'estime être techno-progressiste, affirme-t-elle, en précisant que la technologie doit être au service des humains et non l'inverse. L'IA ne doit pas être aux dépens de l'environnement, de notre bien-être ou du collectif. Par ailleurs, elle explique qu'il existe un double discours ambivalent sur l'investissement des universités dans l'intelligence artificielle. Les étudiants, qui sont très sensibles aux enjeux climatiques, sont témoins d'un discours incongru lorsqu'on leur parle de politique environnementale et de développement de l'IA, alors qu'on sait que cette technologie est extrêmement énergivore, constate René Desjardins. Pour elle, les administrations se doivent de réfléchir à leur prise de position à ce sujet. Frédéric Jubainville. L'IA, c'est comme le feu, il faut savoir le maîtriser. Frédéric Jubainville, enseignant en communication multimédia à l'Université Saint-Boniface, déclare utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de ses cours. Cela m'arrive dans les apprentissages de mise en page, par exemple, et je m'assure qu'il l'utilise comme un outil. Du côté de ses élèves, l'enseignant accepte l'utilisation de l'IA lorsqu'ils s'en servent pour bonifier leurs travaux, tant qu'ils sont capables de démontrer toutes les notions utilisées, précise-t-il. Cet outil est comme le feu. Il peut être destructeur, comme ravager une forêt, mais c'est aussi un outil qui peut être bien utilisé lorsqu'il est maîtrisé, rapporte l'enseignant. Mais une limite à son utilisation dans le cadre de l'université existe bel et bien. Au sein des cours de texte et de rédaction, l'IA peut être un élément néfaste, rapporte l'enseignant qui se souvient de certains élèves n'étant pas capables d'expliquer leurs travaux lorsqu'ils utilisaient l'IA. L'enseignant utilise une autre métaphore et compare ainsi l'IA à un marteau. Si on donne un marteau à un enfant, il faut faire attention qu'il ne l'utilise pas de manière dangereuse. Mais si on lui montre bien comment l'utiliser, il peut s'en servir pour construire quelque chose de bon. J'aimerais pouvoir travailler avec des collègues pour développer la meilleure manière d'intégrer l'IA aux enseignements, Mais cette technologie se déplace tellement vite que c'est compliqué, affirme-t-il. Pour lui, l'enjeu réside aussi dans la capacité à maintenir une forme d'intégrité dans l'utilisation de l'IA et de comprendre l'outil avant de l'utiliser. En somme, c'est un très bon outil, mais on doit d'abord bien préparer la communauté étudiante avant de l'utiliser, souligne-t-il. C'était l'intelligence artificielle vue par les professeurs de l'USB, un texte de Marie Vilgoki, publié le 12 janvier 2026 dans La Liberté.
Dans la série Enquête de solutions du journal La Presse, ce n'était pas qu'un projet artistique, un texte signé Alain Rey, publié dans l'édition du 5 mars de ce journal. On entend souvent que la culture coûte cher, rarement qu'elle rapporte. Pourtant, si nous voulons que la culture québécoise rayonne, il faut d'abord cesser de la traiter comme une dépense à justifier et commencer à la considérer pour ce qu'elle est dans son entièreté. Sans conteste, son fondement est la création, et son effet, l'épanouissement humain. Mais nous aurions tort de nous arrêter là. Il faut aussi considérer l'activité qu'elle génère, son effet sur notre qualité de vie et son poids social et économique. C'est de ce dernier aspect que je veux parler ici. La réflexion n'a rien de théorique, c'est un cas vécu. Il y a maintenant 10 ans, Victoriaville, une ville de 50 000 habitants du centre du Québec, inaugurait le Carré 150, un centre de diffusion culturelle multifonctionnel devenu un levier de revitalisation urbaine, économique, et identitaire. Le projet était dans les cartons depuis plus de 40 ans. Pendant tout ce temps, les administrations municipales, les intervenants du milieu culturel et les gens d'affaires ont tenté, sans succès, de doter la ville de véritables infrastructures culturelles. Lorsque j'ai été élu maire, en 2009, le projet faisait partie de ces rêves collectifs que tout le monde appuie pieusement jusqu'au moment de signer le chèque. Le conseil a alors fait le choix de voir les choses autrement, non pas en abandonnant l'idée, mais en changeant radicalement la façon de la porter. Briser le mythe. Pendant des années, le projet a été porté par les leaders du milieu culturel, et chaque fois, le même réflexe des décideurs. C'est une dépense. Le nouveau conseil qui m'entourerait, lui, a choisi d'en faire un projet de développement économique. Dès le départ, nous y avons associé le milieu des affaires en nommant à la présidence de l'organisme diffuseur, chargé de structurer le projet, une personnalité d'affaires influente et philanthrope reconnue. Sa participation envoyait un message clair. Ce n'était pas qu'un projet artistique. Les artistes et le milieu de l'éducation étaient à la table, bien sûr, mais les entrepreneurs aussi. Donc, et le discours a changé. Nous avons positionné le Carré 150 comme la pierre angulaire de la revitalisation du centre-ville, un lieu vivant, un espace rassembleur, un moteur pour les restaurants, les commerces, l'hôtellerie. Un générateur d'emplois directs et indirects. C'est en parlant d'emploi, d'attractivité et de vitalité économique que le projet a débloqué. Et un détail qui n'a surtout rien d'anodin, les subventions ne sont pas venues du ministère de la Culture, mais du ministère des Affaires municipales du Québec et de Développement économique Canada. Pourquoi? Parce que nous avions réussi à démontrer que ce centre culturel était un levier structurant pour l'économie locale et la revitalisation urbaine. Bien plus qu'un bâtiment. Au-delà des retombées économiques, j'ai compris une chose essentielle. un lieu culturel, c'est un lieu de rassemblement. Autrefois, dans nos villages, le parvis de l'église jouait ce rôle. On s'y retrouvait, on y partageait des moments forts, on y construisait des liens. Aujourd'hui, les lieux culturels remplissent cette fonction. On y vit des émotions ensemble, on y découvre des artistes d'ici et d'ailleurs, on y débat, on y réfléchit, on y crée, on y construit notre identité collective. Dans nos municipalités, lorsqu'il est question de construire un aréna, un terrain de baseball ou une piscine, le débat porte rarement sur le principe. On comprend instinctivement que ces infrastructures ne s'autofinanceront pas. Elles coûtent cher. Et pourtant, on les finance. Parce qu'on les voit comme des investissements collectifs en santé, en jeunesse, en qualité de vie. Pourquoi la culture serait-elle traitée différemment? Un centre culturel ne s'autofinance pas. Une bibliothèque non plus. Mais ces lieux créent du lien social, soutiennent des emplois, dynamisent les centres-villes et renforcent le sentiment d'appartenance. Ils sont aussi essentiels à la vitalité d'une communauté qu'un aréna. Victoriaville n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est ni une métropole ni un cas unique. Si une ville moyenne peut transformer un projet culturel en moteur économique et identitaire, c'est que cette approche peut inspirer des projets ailleurs. La question pour le Québec n'est donc pas de copier un modèle précis, mais de changer de regard. Il faut considérer la culture au même titre que nos installations sportives ou nos parcs industriels. Aujourd'hui, le carré 150 est plein. Le centre-ville est animé. Les retombées sont observables. Ce que cette expérience m'a appris est simple. La culture cesse d'être perçue comme une dépense lorsqu'on arrête de la regarder uniquement avec une calculatrice. La vraie question n'est pas combien coûte la culture. La vraie question est si nous avons la maturité collective et le courage politique de reconnaître tout ce qu'elle nous rapporte. Fin de ce texte d'Alain Rey, titré « Ce n'était pas qu'un projet artistique », publié dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse, édition du 5 mars 2026.